Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. Au Mali, le premier ministre de la transition, Choguel Kokala Maïga, rassure quant à la tenue des élections censées ramener les civils au pouvoir comme prévu en février-mars 2022. Nous aurons de Bamako notre correspondant Mohamed Danioko. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo insiste à nouveau sur la libération de ceux qu'il qualifie de prisonniers politiques dans son pays. Abdourahman Dia nous en parlera. Des violences entre communautés au cours desquelles la police est intervenue ont fait au moins 3 morts ce dimanche à Djibouti. Claire Morin-Gibourg aura les détails. Au Soudan du Sud, le nouveau parlement, qui inclut le parti présidentiel et d'ex-factions rebelles, a prêté serment ce lundi, réalisant l'une des plus importantes promesses de l'accord de paix de 2018 qui a mis fin à 5 années de guerre civile. Coronavirus, la situation épidémique s'améliore légèrement en Tunisie, a annoncé ce lundi l'OMS, tout en appelant le pays où l'aide internationale afflue à accélérer sa campagne de vaccination. Le Maroc a lui annoncé la mise en place d'un couvre-feu national de 21h à 5h à partir de ce mardi afin de lutter contre l'épidémie de coronavirus. Les États-Unis ont atteint le taux de 70% d'adultes ayant reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid près d'un mois après la date objectif du 4 juillet fixée par le président Biden, au moment où les hospitalisations atteignent des niveaux comparables à ceux de la vague de l'été dernier. Selon les CDC, 60,6% des adultes et 49,7% de la population totale sont désormais entièrement vaccinés. Par ailleurs, un rebond du taux de vaccination a été observé ces dernières semaines, notamment dans ces régions les plus touchées par la vague récente de COVID-19. L'île française de la Guadeloupe, dans les Caraïbes, va être reconfinée pour au moins 3 semaines à partir de mercredi soir face à la hausse fulgurante des cas de COVID-19, ont annoncé les autorités locales. Des centaines de milliers d'habitants étaient confinés ce lundi en Chine, en plein rebond épidémique qui a vu la souche Delta se propager aux 4 points du pays et atteindre la ville de Wuhan, la première touchée par l'épidémie de COVID-19, et qui va à nouveau dépister ses habitants. Les forces afghanes ont continué ce lundi d'affronter les talibans à Lashkargah, dans le sud du pays, pour empêcher qu'une première capitale provinciale ne tombe aux mains des insurgés en Afghanistan, qui resserrent leur étau autour de plusieurs grandes villes. La pression s'accentue sur l'Iran lundi après l'attaque meurtrière au drone contre un pétrolier géré par un milliardaire israélien à mer d'Oman, les États-Unis promettant une réponse collective, selon le secrétaire d'État Anthony Blinken, malgré les dénégations du Téhéran et ses menaces de riposte à tout aventurisme. Un Britannique et un Roumain ont été tués dans cette attaque. L'Arabie saoudite a intensifié la persécution des défenseurs des droits humains et des dissidents et multiplié les exécutions au cours des 6 derniers mois, après une baisse de la répression qui avait coïncidé avec sa présidence du G20 en 2020, a dénoncé ce mardi Amnesty International. Le Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international a donné son feu vert lundi à l'augmentation des capacités de prêt de l'institution de 650 milliards de dollars, dernière étape dans l'approbation de cette initiative devant permettre d'augmenter l'aide aux pays les plus vulnérables. Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, va briguer le 7 novembre un 4e mandat consécutif de 5 ans. Son principal adversaire sera un ex-guérillero de la Contra anti-sandiniste après l'arrestation de ses 7 adversaires potentiels les plus sérieux. Son épouse, Rosario Murillo, briguera également un 2e mandat à la vice-présidente. suite de nos informations. Au Mali, le plan d'action du gouvernement Choguel Kokala Maïga a été adopté hier lundi à une majorité écrasante. Ce vote est intervenu au bout de débats marathon de plus de 10 heures. Le premier ministre malien rassure quant à la tenue des élections aux dates indiquées dans le chronogramme publié en avril dernier. D'autres détails avec notre correspondant Mohamed Danyoko.
Débuté à 10h, c'est à 21h que les débats pour l'approbation du plan d'action gouvernemental du Premier ministre Choguel Kokala Maïga par les membres du Conseil national de transition ont pris fin. Ainsi donc, durant plus de 10 tours d'horloge, le Premier ministre a répondu à la centaine de questions qui lui a été adressées sur l'efficacité de ce plan et surtout la capacité de son gouvernement à l'appliquer. Pour le financement du plan, il dira que ce sera financé en grande partie par le budget national avec une part subsidiaire financée par les partenaires à hauteur de 15 à 20%. S'agissant de la sécurité, le deuxième axe de son plan, il s'est voulu rassurant sur l'efficacité des nombreuses opérations militaires actuellement en cours et en collaboration avec d'autres forces. S'agissant de la question cruciale des élections, le Premier ministre maintient sa volonté de mise en place d'un organe unique de gestion. Par rapport au respect des délais des élections, il dira que le calendrier a été déjà rendu public en avril dernier, histoire pour lui de dire que les élections auront lieu aux dates indiquées. À noter que ce plan a été adopté par 102 voix. Il y a eu 2 votes contre et 9 abstentions. Mohamed Danyoko, VOA Bamako.
En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo revient à la charge, réitérant que ceux qu'il appelle des prisonniers politiques doivent être libérés. Il a transmis la semaine dernière au président Alassane Ouattara une liste de 110 détenus. Abdourahmane Dia.
Notre combat, c'est de les sortir de là-bas. Le point actuel de mon programme, c'est de me battre pour la libération de tous les prisonniers d'opinion, a lancé Laurent Gbagbo devant une centaine d'épouses de ces détenus qu'il a reçus hier lundi à Abidjan. La question avait été abordée par M. Gbagbo lors de sa rencontre le 26 juillet avec Alassane Ouattara. Il ne m'a pas dit non, mais il ne m'a pas dit oui. Il va faire tous les efforts pour les libérer le plus tôt possible. C'est la réponse qui m'a été faite, a déclaré lundi M. Gbagbo. Dans la liste des 110 détenus figurent à la fois des personnes arrêtées après la crise de 2010-2011, mais aussi des personnes interpellées en 2020 lors de la dernière campagne présidentielle et en juin dernier en marge du retour en Côte d'Ivoire de M. Gbagbo. La vraie réconciliation passe impérativement par la libération des prisonniers, a estimé de son côté Simone Daté, présidente du collectif des femmes et parents des détenus des crises.
À Djibouti, des violences entre communautés ont entraîné la mort d'au moins 3 personnes dimanche. Les incidents de ce type sont extrêmement rares dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Claire Morin-Gibourg fait le point.
Les affrontements se sont produits dans plusieurs quartiers de Djiboutiville et ont impliqué des Afar et des Issa, les deux grandes communautés du pays. Selon des témoins, les violences ont commencé à Ouarabalais, où des maisons de la communauté Issa ont été incendiées et se sont ensuite étendues à d'autres quartiers. Des habitations de la communauté Afar ont été brûlées au quartier PK12 de la capitale djiboutienne. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nou Hassan, a évoqué des événements d'une ampleur nouvelle qu'il a qualifié d'intolérables. La procureure, Lamis Mohamed Saïd, a évoqué des actes criminels d'une extrême gravité et fait état de 3 décès. Des habitants ont signalé une dizaine de morts. Hier, la vie a repris son cours normal malgré une forte présence policière dans certains quartiers. L'accès à Internet est erratique. Après des affrontements similaires fin juillet dans une région éthiopienne voisine, les réseaux sociaux djiboutiens étaient surchauffés depuis plusieurs jours.
Et maintenant les sports, la couverture spéciale des Jeux Olympiques avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous, ce mardi pourrait bien être celui des stars scandinaves. Sur 400 mètres air, le phénomène norvégien Karsten Warholm, 25 ans, qui a amélioré le 1er juillet le record du monde vieux de près de 29 ans, sera favori pour l'or olympique après l'or mondial en 2017 et 2019. En gymnastique, c'est la dernière chance de revoir Simone Biles, la superstar de la gymnastique qui a renoncé à 4 finales en raison de pertes de repères dans l'espace, participera ce mardi à celle de la poutre. L'annonce a été faite par la Fédération américaine de gymnastique. La quadruple championne olympique en 2016 et 19 fois championne du monde a quitté la finale du concours général par équipe après un seul saut. Elle a ensuite déclaré forfait pour 4 autres finales à 24 ans pour ses deuxièmes JO. Simone Biles est en proie à une baisse de confiance en elle, parasitée par la pression et un problème de perte de repères dans l'espace. Hier, le podium du 3000 mètres steeple messieurs a été africain. Au 5000 mètres dames, l'argent et le bronze reviennent respectivement à la Kenyane Hélène Obiri et l'Éthiopienne Goudaf Tesgay. Nanit Talani.
Le Marocain Soufiane El Bakkali a été sacré champion olympique du 3000 mètres steeple. Il devient le premier Marocain médaillé d'or aux Jeux tous sports confondus depuis Hicham El Guerrouj en 2004. El Bakkali, 25 ans, a devancé en 8 minutes 8 secondes l'Éthiopien Lamecha Girma et le Kenyan Benjamin Kigen. Il succède au palmarès au Kenyan Conseslus Kipruto, absent cette année. Le Marocain met ainsi fin à l'incroyable domination kenyane sur la distance après 9 titres olympiques consécutifs depuis 1984. Au 5000 mètres dames, la double championne du monde en titre, la Kenyane Hélène Obiri, s'est contentée de l'argent comme en 2016. Elle a réalisé un temps de 14 minutes 38 secondes, se classant deuxième devant l'Éthiopienne Goudaf Tsegay. L'or est revenu à la Néerlandaise d'origine éthiopienne Sifan Hassan, facile d'aisance dans le dernier tour, 14 minutes 36 secondes. Elle succède au palmarès à la Kenyane Viviane Cheruiyo, victorieuse à Rio en 2016. Née en Éthiopie, Sifan Hassan est arrivée aux Pays-Bas en tant que réfugiée en 2008.
Merci Nanit. Vous le savez, les athlètes réfugiés participent aux Jeux Olympiques sous la bannière de l'équipe des réfugiés du Comité international olympique. Dans les camps de réfugiés, les familles encouragent leurs athlètes. Animées d'espoir, les familles des athlètes réfugiés du camp de Kakuma au Kenya leur envoient des messages d'encouragement et des bénédictions. Les détails avec Deli Diko.
Il ne s'agit que de la deuxième apparition de l'équipe des réfugiés au JO. La première a eu lieu en 2016. Angelina Nadai-Lohali faisait partie de l'équipe historique de réfugiés qui a participé aux Jeux Olympiques de Rio il y a 5 ans. À Tokyo, elle visera l'or à l'épreuve des 1500 mètres. Sa tante Marie est extrêmement fière.
Je pense qu'elle est un exemple pour la jeunesse. Elle m'inspire beaucoup. Si j'étais jeune, j'aurais vraiment aimé devenir une athlète. Je continue d'encourager mes propres enfants à s'inspirer d'Angelina afin de pouvoir voyager et découvrir le monde comme elle le fait.
Tout comme Angelina, les athlètes Paolo Amutun et Rose Natike ont également échappé à la guerre au Soudan du Sud. Depuis, ils vivent au camp de réfugiés de Kakuma et s'entraînent dans un centre sportif à Ngong, près de la capitale Nairobi. Véronica, la maman de Rose Naidishi, lui envoie des bénédictions.
Que Dieu t'accorde un cœur pur, cours avec, cours comme tu le fais en temps normal. Je prie pour que tu puisses remporter la première place du podium et qu'à ton tour, nous puissions célébrer ta victoire.
Regina, la sœur de Paolo Amutun, espère également que son frère reviendra avec la médaille d'or.
Je souhaite que tu te classes en excellente position pendant la course. Cela me rendrait si heureuse. Je t'encourage et je prie pour que le Seigneur te guide vers la victoire.
Cette année, ils sont 29 athlètes réfugiés à concourir à Tokyo dans 12 disciplines sous la bannière du drapeau olympique.
C'est ici que se referme cette fenêtre consacrée aux Jeux olympiques.
Merci Yacouba. Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Sedulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, profanation des églises catholiques dans le Kasaï et menace à l'endroit du cardinal Fridolin Ambongo. Après les désaccords survenus parmi les chefs de confession religieuse pour désigner le nouveau président de la CENI, Les évêques catholiques congolais ont appelé le pouvoir à mettre fin à cette situation. Eddie Issango a joint hier à Kinshasa le chancelier du cardinal Fridolin Ambongo, l'abbé Georges Ndila.
La réaction, c'est tout à l'heure là, la CNCO vient de signer un communiqué, le regret par rapport à ces actes ignobles qui ont été liés à l'archevêché, à la résidence du cardinal. Mais déjà quelques jours avant, nous avions connu le même fait dans les diocèses de Mbujimayi, là où il y a eu profanation des églises. On a volé quelques biens des églises. Nous pensons que la conscience de toutes les valeurs que nous respectons reviendra et que les faits causés ou les dégâts causés pourront être réparés. L'essentiel, c'est que nous devons tous regarder vers l'objectif qui nous attend, c'est-à-dire construire un pays totalement démocratique. Le souci des évêques, c'est de faire que notre pays soit un cadre de vie meilleur pour tous les Congolais. Alors, s'il y a des tels actes, on risque de beaucoup reculer par rapport aux souhaits et par rapport aux avancées que le pays commence déjà à faire timidement.
Mais les évêques semblent pointer du doigt le parti au pouvoir et ses militants.
Non, pour l'instant, ils n'ont pas encore porté un tel jugement que c'est tel ou tel autre. On peut avoir extérieurement des éléments de rapprochement, mais ça ne suffit pas encore. Il faut que des enquêtes sérieuses soient faites.
Néanmoins, les évêques en appellent aux dirigeants pour mettre fin à cette situation.
Effectivement, ils ont appelé au sens de responsabilité des dirigeants. Mais aussi le peuple lui-même, savoir que devant certaines situations, il faut rester responsable. C'est-à-dire, un peuple qui est responsable n'a pas le droit ni le devoir de détruire ou de menacer. Les dirigeants aussi responsables n'ont pas le droit ni le devoir de laisser des personnes menacer les autres ou casser leurs biens.
Ceux qui s'en prennent au cardinal et à l'Église catholique les accusent de s'adonner à la politique, notamment par rapport à leur position quant à la désignation des dirigeants de la CENI.
Depuis toujours, les évêques conseillent. Je ne sais pas qu'il y a un combat au sein du militantisme. Les évêques conseillent le profil de celui qui doit diriger la CENI et surtout le visage que doit avoir la CENI, c'est-à-dire une structure indépendante. Les animateurs doivent être remarqués par leur honnêteté, leur indépendance, leur compétence. Il y a beaucoup d'avantages pour cela. Je ne vois pas, c'est pas autant qu'ils sont en lutte contre un groupe ou un autre, non, pas du tout. Mais ils font des conseils et ils insistent sur les valeurs qu'ils doivent porter la CENI aujourd'hui.
L'abbé Georges Ndila, chancelier du cardinal Fridolin Ambongo.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, la bataille autour de la CENI en RDC. Ce week-end, le processus de nomination du président de cette structure chargée d'organiser les élections a tourné au vinaigre lorsque l'archevêché de Kinshasa et 12 édifices catholiques dans le Kasaï ont été attaqués. Une tension qui survient deux jours après des divergences sur le choix du président de la CENI, approuvé par 6 des 8 confessions religieuses. Avec nos invités, nous discuterons des enjeux autour de la composition des membres de la CENI en vue de la présidentielle de 2023. Ce sera ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Au Cameroun, 1000 femmes ont demandé la fin immédiate des hostilités et un dialogue inclusif pour mettre fin à la crise séparatiste qui a tué au moins 3000 personnes dans les régions anglophones. Réunies lors d'une conférence à Yaoundé, ces femmes ont également témoigné de cas de violence et de torture par les combattants séparatistes et les troupes gouvernementales. Reportage à Yaoundé de Moki Edwin Kinzeka. Récit de Claire Morin-Gibourg.
Appelée Hymne des femmes camerounaises, a retenti dans les haut-parleurs d'un centre de conférence à Yaoundé. Ces femmes disent qu'elles veulent l'arrêt des effusions de sang dans les régions anglophones. Parmi le millier de femmes présentes à cette conférence de la paix qui s'est terminée samedi soir, il y avait Caroline Agbor, une enseignante de Mamfé, une ville anglophone du sud-ouest. Elle raconte qu'en septembre 2018, des combattants séparatistes ont amputé des parties de son corps.
Elle n'avait pu collecter que $50 sur les $200 que réclamaient les combattants pour acheter des armes.
Les combattants m'ont dit que ce n'était pas suffisant et que cela voulait dire que je ne voulais pas les soutenir pour acheter des balles. Les trois premiers doigts de ma main gauche ont été coupés et j'ai 4 blessures sur la moelle épinière. C'est à l'hôpital que j'ai réalisé que j'avais de multiples blessures. Dieu m'a sauvée. Je suis toujours en vie.
D'autres femmes ont également raconté qu'elles ont été torturées et violées par des soldats gouvernementaux et par des combattants séparatistes. L'armée et le gouvernement ont réfuté ces allégations et ont promis de sanctionner toutes les troupes reconnues coupables de viol. Un groupe appelé Northwest Southwest Women Task Force, en collaboration avec d'autres associations de femmes, a organisé cette réunion pour la paix. Eileen Manka est la porte-parole du groupe de travail qui apprend aux civils à rechercher des solutions pacifiques au conflit. Pour elle, ce sont les femmes et les filles qui sont les plus durement touchées.
Ce sont les femmes qui restent pour enterrer les morts, pour soigner les blessés. Et voyez-vous, quand une femme veut fuir les conflits, elle doit courir avec ses enfants. Quand un homme s'enfuit, il s'enfuit seul. Des femmes seules ont créé leurs propres entreprises. Leurs entreprises ont été incendiées. Nous avons des cas de femmes qui se sont enfuies vers les villes et qui sont maintenant des prostituées. Nous avons des cas de jeunes filles qui sont maintenant violées dans les villes en raison de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest.
Le ministère camerounais de l'Éducation rapporte que 60% des 600 000 enfants qui n'ont pas pu aller à l'école depuis le début de la crise séparatiste en 2016 sont des filles. 75% des 100 000 agriculteurs qui ont fui leurs terres dans les régions anglophones de l'Ouest sont des femmes. Et 60% des personnes qui ont abandonné leurs magasins sont des femmes. Rosaline Oba est la coordinatrice du Cameroun Community Media Network qui plaide en faveur d'un retour à la paix. Et elle appelle le gouvernement et les combattants à s'engager dans un véritable dialogue autour de la paix et de la solidarité au Cameroun. No true peace talks
can happen. Aucun véritable pourparler de paix ne peut avoir lieu au milieu d'une violence extrême. La raison pour laquelle l'une des principales recommandations des femmes est que les hostilités doivent cesser immédiatement. Et bien sûr, nous devons aller à la table des négociations. Un dialogue véritable, car si ce n'est pas un processus inclusif, nous n'aurons aucune solution à la crise séparatiste.
Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre camerounaise de l'autonomisation des femmes, a déclaré que le gouvernement va examiner les propositions faites par ces femmes.
Nous avons besoin de toutes les forces pour reconstruire, restaurer et consolider la paix au Cameroun. Nous avons reçu l'appel à la paix et avons répondu en disant que nous sommes prêts. Sachez que le gouvernement de la République salue votre engagement et promet tout le soutien nécessaire.
Selon l'ONU, plus de 3000 personnes ont été tuées dans les régions anglophones depuis le début des combats en 2017. Les troubles ont commencé avec des enseignants et des avocats anglophones qui protestaient contre la domination francophone. Puis des groupes séparatistes ont pris les armes exigeant l'indépendance d'un État anglophone qu'ils appellent Ambazonie. Ce mouvement a été réprimé par les autorités qui appellent les dissidents à se rendre ou à être tués. Plus de 550 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été déplacées des régions anglophones vers des villes francophones ou vers le Nigeria voisin.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Guinée, une communauté minoritaire appelée Bassari est victime de ces noms de famille peu connus des Guinéens. Les Bassari font l'objet de rejets et de tracasseries administratives. Leur nom suscite des interrogations au point que certains les considèrent comme des étrangers, nous dit notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
Les Bassari sont établis depuis plusieurs siècles dans le nord-ouest de la Guinée, dans des villages enclavés, presque isolés. Les noms qu'ils portent sont improbables et les exposent à des tracasseries de toutes sortes. Jean-Pierre Boban témoigne.
On n'a pas couramment entendu Bouban Bidjar Bonang. Et du coup, les gens pensent que nous sommes des étrangers venus soit du Togo, de la Côte d'Ivoire. C'est pas une fois ou deux fois, c'est plusieurs fois. Et disons, à tout moment, voilà ce qu'on nous dit tout de suite après présentation du nom. Et aujourd'hui, obtenir un papier, il faut vraiment rassembler beaucoup de preuves. Ça, c'est des difficultés. Quand vous voyagez, dès que vous présentez la carte d'identité, on vous descend pour des interrogations.
Victimes de rejet et de discrimination, certains Bassari sont poussés vers le complexe et la résignation. Aboubakar est Bassari, résident à Conakry.
Une fois que vous vous identifiez à travers votre nom, vous vous identifiez à travers votre culture, soit vous êtes discriminé, soit vous êtes rejeté. Et ce qui a occasionné par endroits aussi un complexe au niveau du Bassari. Certains Bassari qui sont complexés de ce qu'ils sont. Parce que vu l'image qu'on lui renvoie, certains peut-être vont vers une sorte de déracinement où ils pensent que c'est mauvais d'être Bassari.
Les jeunes Bassari de Conakry ont décidé de se faire entendre. Ils évoluent désormais au sein d'une association pour défendre la cause de la communauté. Jean-Pierre Boban.
Nous avons une ONG aussi qui s'intéresse à ce qu'on prenne nous-mêmes la sensibilisation et l'éveil de nos propres communautés. L'Organisation pour le développement de tout l'homme. Nous cherchons à peut-être porter le message à qui de droit pour qu'on puisse vraiment comprendre ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons apporter dans ce pays.
Les Bassari sont une population d'Afrique de l'Ouest vivant principalement sur les plateaux du Sénégal oriental et dans le nord de la Guinée. Ils forment un groupe plus large nommé Tanda. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Avec la propagation du variant Delta aux États-Unis, les autorités mettent en place de nouvelles directives sur le port du masque. Certains employeurs et même des restaurants exigent une preuve de vaccination contre le COVID-19. Michel Quinn nous en dit plus. C'est un récit d'Abdourahman Dia.
Les États-Unis font une nouvelle fois face à une remontée en flèche des cas de COVID-19, essentiellement due au variant Delta très contagieux. Deux hôpitaux de San Francisco ont vu plus de 200 employés testés positifs. La plupart avaient été totalement vaccinés, selon le New York Times. Au cours du week-end, la Floride a battu son propre record journalier avec plus de 21 000 nouveaux cas. Le docteur Anthony Fauci est conseiller médical du président Joe Biden. Il s'est exprimé sur la chaîne ABC.
Nous vivons en fait dans une période de défi en matière de santé publique très grave ici avec une pandémie, avec un virus qui a une capacité extraordinaire de se propager rapidement et efficacement d'une personne à l'autre.
Avec 100 millions d'Américains non vaccinés, les autorités essayent de réagir. La semaine dernière, le président Joe Biden a annoncé que les employés fédéraux doivent être vaccinés ou subir des tests obligatoires, une décision critiquée par certains syndicats qui accusent le gouvernement de violer les droits des travailleurs. Dans le même temps, les centres de prévention et de lutte contre les maladies recommandent à tout le monde, y compris les vaccinés, de porter un masque à l'intérieur dans les endroits où la transmission est élevée. Et le médecin traitant du Congrès veut que les membres de la Chambre portent un masque. Certains législateurs ont critiqué la nouvelle règle qui n'affecte pas le Sénat. Kevin McCarthy est le chef de la minorité républicaine à la Chambre des représentants.
Le CDC est devenu un bras politique de l'administration. Il veut contrôler chaque élément de notre vie.
Selon Dr. Fauci, les recommandations de santé publique peuvent porter atteinte aux libertés individuelles, mais ne pas les suivre peut également être problématique.
Le fait est que si vous êtes infecté, même si vous ne présentez aucun symptôme, vous pouvez très bien infecter une autre personne qui peut être vulnérable, qui peut tomber gravement malade. Donc, en substance, vous empiétez sur leurs droits individuels parce que vous les rendez vulnérables.
La révision de certaines règles peut avoir un certain effet. Selon la CNN, le rythme de vaccination aux États-Unis a bondi de 21% la semaine dernière par rapport à 3 semaines plus tôt. Il est même plus élevé dans certains États du Sud où le niveau de vaccination est généralement très bas.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Segouya et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.